Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant.
Vous ne me prenez pas au sérieux.
Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre.
Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ici, j'écoute des gens me parler de théâtre et de création. Aujourd'hui, j'ai rencontré Noémie Ksikova, auteur et metteur en scène de Rapture au Théâtre de Belleville à partir du 26 février. On a parlé de souvenirs, de textes cannibales, on a parlé de concevoir plutôt que de mettre en scène, et on a tenté de donner un bout de réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est en fait faire du théâtre ? Est-ce que tu peux me parler de ton parcours pour commencer ?
Alors c'est un parcours qui a été fait avec, qui a été très sinueux, parce que j'ai fait du coup, pour arriver à la mise en scène, je suis passée par plein de choses différentes. J'ai commencé, je suis rentrée très très tôt à l'INSAS, qui est l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle à Bruxelles. J'étais très jeune, j'étais pas majeure. Je suis en mise en scène et je suis partie parce que je me suis dit non, en fait, je veux être comédienne. Bref. Donc j'ai quitté l'école, je venais d'avoir 18 ans. J'ai rencontré un metteur en scène comédien qui s'appelait Maurice Bénichou à l'époque et donc j'ai travaillé avec lui. Et après, en fait, j'ai un peu appris sur le tas ce métier de comédienne, me désintéressant totalement de la mise en scène. Et voilà, donc j'étais une comédienne classique. Voilà, je jouais dans ces différents spectacles. Et puis, je me suis retrouvée sans travail, ce qui ne m'était pas arrivé beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à penser à des choses où j'étais indépendante. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des performances, des installations vidéo. Et j'ai commencé à aller vers ça. Et voilà, et après, j'ai mis en scène un spectacle au Ciné 13, il y a 3 ans, 4 ans, mais qui était une commande d'une amie. Et après, j'ai travaillé pendant 2 ans sur. Un an et demi sur Rapture, donc le spectacle qui va être joué à Belleville, qui a été créé à main d'œuvre. Voilà, en gros, donc mon parcours.
Et t'as eu une sorte de déclic quand t'es passée du métier de comédienne à celui de
danse ? Ouais, j'étais à ma place.
D'accord.
J'étais à ma place. Je pense que je pense que j'étais une bonne comédienne, mais que j'étais pas une comédienne transcendantale, donc je pense que j'aurais pas... voilà, et je crois que c'est parce qu'il me faisait vibrer, et qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire, parce que mon travail de mise en scène, il est vraiment lié à mon travail de création... d'écriture, vraiment, quoi. J'ai l'impression d'être plus de concevoir. J'ai pas l'impression d'être metteur en scène du tout. D'ailleurs, la mise en scène, elle est co-signée, quoi, elle est signée avec, en tout cas, les 5 comédiens du spectacle. J'ai pas du tout l'impression d'être metteur en scène. Par contre, j'ai l'impression d'amener des idées et d'essayer de faire de la conception, de faire une sorte d'œuvre comme ça, à l'intérieur de laquelle il y a une esthétique, à l'intérieur de laquelle il y a des comédiens extraordinaires, et de raconter une histoire. Et c'est ça qui m'intéresse plus encore que la... Voilà, je me sens pas du tout metteur en scène, en fait.
Okay. T'as fait aussi de la performance et
ouais.
Des installations
vidéo. Ouais, je me suis mis en scène. Donc les performances, elles étaient vraiment... C'était des actions vraiment physiques. Voilà, qui était sur le rapport du corps, la violence du corps aussi, c'était un peu engageant physiquement. Et j'étais résidente dans un lieu à Saint-Denis qui s'appelait le 6B, et je faisais des installations vidéo. J'ai fait des petits films et des installations vidéo qui étaient déjà en lien avec les thèmes qui sont un peu obsessionnels chez moi, c'est-à-dire le thème de garder la trace et de garder vivant. Donc c'est des installations autour de ça. J'avais fait tout un travail qui s'appelait Lait, qui était sur un... où je filmais une ferme, en fait, pour arriver à un corps d'un fermier pendu. C'est pas très drôle. en fait, l'autre, c'était sur une fille qui enterrait un enfant et qui se noyait. Et puis j'avais fait des sortes de maisons de poupées, c'était mon grand truc, j'ai passé des années à faire ça, je construisais des maisons de poupées, et en fait, et j'essayais de choper des moments de vie en fait, dans ces immeubles, en fait, comme voilà, quand on regarde des immeubles, il y a une lumière qui est allumée, on imagine la vie, la trace de vivant à l'intérieur de ça. Voilà.
Elles sont visibles ces vidéos ?
Les vidéos sont visibles, les maisons de poupées sont dans mon grenier.
T'avais écrit sur ta première mise en scène qui est pas
assez... non, pas du tout. C'était vraiment une commande. Là, c'était vraiment de la pure mise en scène. C'est pas un texte que j'avais choisi, c'est une comédienne qui m'avait demandé de la mettre en scène dans ce texte-là, qui était un très beau texte d'ailleurs. Mais j'ai vraiment, là pour le coup, c'était vraiment un travail de direction d'acteur et d'habillage d'espace.
Donc Rapture, c'est la première
ouais,
fois que tu...
Ouais, Rapture, c'est écrit... vraiment, c'est vraiment ouais. Un bébé. Ouais, c'est mon bébé. Rapture, j'ai... Mais ça a été un très, très, ça a été un très long... C'était très compliqué, Rapture, parce qu'au départ, il y avait une volonté avec une des comédiennes qui s'appelle Cécile Péricone, avec qui je travaille en... de manière extrêmement étroite depuis très longtemps. On avait, quoi, moi, j'avais ce désir, et elle aussi, d'ailleurs, de faire vraiment une adaptation du livre de Duras. C'était l'idée initiale, donc, de faire une adaptation, de faire un spectacle qui s'appellerait Le ravissement de l'Holbechstein et de le faire au théâtre. Et donc, on était toutes les deux à la naissance de ce projet, et puis on a fait une résidence à la Ménagerie de Verre, où moi, j'ai... ramener, en fait, il y avait 7 personnes, 7 comédiens, et on a commencé à chercher autour de ça. Et on s'est rendu... Voilà. Et comment amener de la vie... dans, le texte de Duras, il est cannibale, quoi. C'est-à-dire qu'il bouffe tout, quoi. C'est-à-dire qu'à côté, tu peux plus dire bonjour, ça paraît tellement... Donc, voilà, il fallait vraiment s'émanciper de ça. Donc, tout le travail, après, j'ai fait un travail d'adaptation, en voulant raconter l'histoire. Et au départ, il y avait une autre adaptation. Et depuis, en fait, ce travail à la Ménagerie de Verre, j'avais envie de mélanger... l'histoire avec quelque chose d'autre. Je voulais pas que ce soit simplement l'adaptation du roman. Donc au départ, j'avais fait une adaptation d'un bouquin qui s'appelait L'invention de Morel, qui parlait aussi de le ravissement de l'Holbechstein, c'est l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à s'émanciper d'un moment qu'elle a vécu parce que ça a créé chez elle quelque chose d'aussi violent et d'aussi troublant qu'elle essaye de le revivre sans fin, de manière jusqu'à la folie. Et L'invention de Morel, qui était au départ le pendant du ravissement et qui en fait faisait donc ce spectacle Rapture, était c'est l'histoire d'un homme en fait qui va créer une machine qui filme tout, qui reproduit les odeurs, qui reproduit les sons, qui reproduit tout pour pouvoir garder à vie le moment qu'il a passé avec une femme qu'il a aimée et qu'elle n'aimait pas. Et donc en fait c'est un film qui se passe en boucle et je trouvais ça hyper intéressant de relier les deux. Après ça manquait de vie et je trouvais que c'était exactement que les choses se situaient au même endroit et voilà. Et donc du coup effectivement, mais c'est vraiment un travail, c'est pas un travail à la table, c'est vraiment un travail au plateau avec les comédiens qui en fait ont amené, et le dramaturge avec lequel j'ai travaillé, Aurélien Patouillard, qui est un ami et qui connaît ma vie, qui d'un coup s'est dit mais en fait elle monte ça parce qu'en fait parce qu'elle parle d'elle pour le ravissement, et que effectivement je venais de perdre mon père et que mon père avait effectivement était tombé malade et avait était devenu fou, donc c'est dit hein, dans le spectacle, je ne livre pas ma vie, mais c'est ce qui s'est passé. Et en fait le parallèle était incroyable parce que c'était donc, et du coup le personnage de Cécile est devenu une sorte de, alors c'est pas moi parce que c'est pas que mon histoire, c'est aussi des choses qui ont été créées par les comédiens, des scènes, des choses impulsées par moi évidemment, mais qui sont aussi, il y a des choses de l'histoire des comédiens qui sont dedans, même si le fond de l'histoire est la mienne, mais voilà, donc cette chose est arrivée comme ça par le dramaturge, et du coup, et a donné un sens à la volonté, c'est pas du tout clair ce que je dis, mais à la volonté de disons que c'était pas factice, le besoin d'avoir une sorte de pendant à l'histoire de l'Holbechstein, du ravissement de l'Holbechstein, sauf que c'était... ça parlait de l'intime, mais de l'intime qui touche tout le monde, c'est-à-dire juste comment face à la perte on peut garder vivant la personne qui l'est pas, il reste quoi par la mémoire, et donc de travailler sur la remémoration de souvenirs et de revivre des souvenirs et de revivre des moments, et ça c'est le personnage de Cécile qui le prend en charge et qui en fait du coup devient, et en fait dans Rapture c'est elle qui convoque le personnage de l'Holbechstein un peu de manière magique, mais qui du coup ramène une sorte de distance littéraire et poétique à son désir, elle, de revivre grâce au personnage de LOL.
D'accord.
Voilà.
Donc LOL, c'est plus une invocation de personnage principal.
Ouais. Au départ, ça a pas été, c'était pas ça. Je veux dire, c'est le cheminement qui a fait ça. Nous, on l'a créé à main d'œuvre. C'était pas exactement ça. C'était pas très clair. Le temps ayant passé, oui. Aujourd'hui, c'est le personnage de Cécile qui est donc qui en fait convoque ce personnage-là, parce qu'elle se sent proche d'elle et que surtout, je pense que ça poétise un peu son désir primaire.
dans Love Is Strange, il y a justement cette espèce de décalage parce qu'on n'est jamais vraiment près du personnage de LOL. Il y a toujours c'est soit à travers les yeux d'un personnage, soit un narrateur qui n'était même pas là, qui apporte des propos rapportés. Comment est-ce que tu as pu rendre ça dans la mise en scène?
Ça y est, par touche. Cécile le prend d'une certaine manière en charge. Ça a été très très compliqué à travailler. Parce qu'on avait l'impression, en avançant, plus on avançait en fait dans la construction du spectacle, et plus on avait l'impression qu'on n'arrivait pas à rendre ce qu'est le personnage de Lolvestein dans l'œuvre de Duras, qui est un personnage extrêmement complexe, et que c'est très facile de l'amoindrir, mais que c'est elle, et que si on prend les dialogues en fait dans le roman. On dirait vraiment un film de série B espagnole. Donc c'est très compliqué. Mais ça n'a du sens que parce qu'on a vraiment sa narration derrière. Mais sinon, c'est vraiment... quoi, c'est drôle, même. Si tu prends tous les dialogues, c'est vraiment AB Production, le truc, quoi. Donc, du coup, moi, au départ, je m'étais vraiment éloignée de la langue de Duras, mais en faisant des gros manques. Et du coup, ça rendait ça... ça pouvait, pour les deux comédiens, disons, principaux de cette histoire-là, qui sont donc le personnage de Jacques-Hold et de LOL, c'était parfois un peu compliqué en tant qu'acteur. Donc, en fait, on est retourné sur le... On est reparti dans l'œuvre de Duras. On a repris pas mal de dialogues, en fait, qui, au départ, n'étaient pas là, pour essayer d'expliquer, parce que c'est quand même extrêmement complexe. De quelqu'un qui a besoin de revivre, mais pas parce qu'elle a été abandonnée, revivre l'abandon, le fait que son fiancé soit tombé amoureux d'une autre femme devant elle, mais c'est pas le fait d'avoir été abandonné, c'est le fait d'avoir été dans une triangularité et de ne pas avoir pu voir le moment, parce qu'elle a été enlevée de cette scène-là où donc son fiancé fait l'amour avec cette femme dont il vient de tomber amoureux, et c'est ça qu'elle va rechercher à voir. Et c'est le fait, c'est la négation de ce qu'elle est, en fait, le fait de sa non-existence, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se perçoit. Donc c'est extrêmement complexe et c'est très difficile à montrer par des mots, donc c'est vraiment physique. Finalement, on a pas mal de dialogues, quand même, de série B, mais il y a eu un gros travail sur le corps, parce que Duras, dans son livre, elle décrit avec énormément de précision les corps de ses protagonistes. Donc on a vraiment travaillé physiquement, on a travaillé sur des placements, sur le personnage de LOL qui est incarné par Émilie Vaudou, sur toujours ce décalage, des fois, c'est-à-dire que comment montrer la folie alors qu'elle est quasiment pas perceptible, sauf dans la narration qu'en fait Duras. Du coup, il y a toute une scène où elle va parler de jardinage, mais un peu trop longtemps. Et du coup, ça crée un malaise. C'est-à-dire, vraiment, on a essayé de chercher ça par des petites touches sur sa manière de regarder, sur sa manière de se mouvoir. Elle a une robe, on voit à moitié ses seins tout le temps, et pourtant, elle n'est jamais vulgaire. Et voilà, donc, Émilie a vraiment travaillé sur beaucoup de choses, de détails, pour rendre, en fait, ce qui est dans le livre et que, malheureusement, on ne peut pas faire de lecture, quoi. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaitait faire. Voilà.
Comment est-ce que tu as lié, du coup, une expérience du deuil à ce texte-là?
Je sais pas comment c'est arrivé chez moi. En tout cas, c'était évident que c'était lié une fois que ça a été nommé, mais avant pas du tout. Ce que j'aime dans le personnage de Lolvestein, ce que j'aime dans le personnage de Cécile, et que j'aime de manière générale, et dans la prochaine création, c'est encore des personnages un peu comme ça, c'est que c'est des femmes qui sont obstinées et qui vont... En fait, le désir de revivre des choses, on l'a tous. Après, elles vont au bout de ce désir-là, ces deux femmes-là, qui peut aller jusqu'à la folie, d'une certaine manière, un peu chez l'une, beaucoup chez l'autre. Et c'est qu'il y a cette chose où elles décident que ce moment-là, ce moment précis, quand elle avait 19 ans au bal à Tea Beach, ce qu'elle a vécu, elle en avait... C'était le moment de sa vie... Et qu'elle n'est qu'à la recherche de ce moment-là, et ben sa vie est faite autour de ça. Le personnage de Cécile ne supporte pas. Là, c'est un peu plus compliqué parce que dans la reprise, on a changé un peu des choses, mais n'arrive pas à retrouver son père d'avant la maladie. C'est-à-dire que du coup, tous ses souvenirs d'enfance sont entachés, puisqu'elle n'arrive à à se remémorer que son père, mais avec un corps et un psychisme d'homme malade. Et donc, elle va décider de revivre ça. Mais c'est des femmes qui sont d'un jusqu'au boutisme et d'une... qui, moi, me touchent. C'est-à-dire, moi, je trouve ça très beau. Et c'est ce que je cherchais à montrer. C'est-à-dire, c'est des femmes qui vont au bout de leurs désirs. Qui sont des désirs bizarres, mais qui sont, en tout cas, leur choix. Et je pense que ce genre de désir comme ça, qui est extrêmement marqué, qui est extrêmement jusqu'au boutiste, tu ne l'as que dans des expériences de vie extrêmement fortes. Là, c'est comment l'homme que tu aimes follement arrête de t'aimer. Et là, c'est comment la mort du père fait que. Et voilà. Donc, du coup, pour moi, c'était assez logique. Des gens ne le comprennent pas, puisqu'on a déjà joué ce spectacle. D'autres gens, il y a des gens, c'est hyper joli parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est évident. D'autres gens, c'est, ne comprennent pas le lien. Moi, je peux pas le justifier plus que ça, que pour moi, c'est d'une évidence absolue. Mais il y a pas de doute pour moi que ces choses-là peuvent être liées. Voilà. Après, c'est un chemin. Voilà, c'est un choix de création.
Pour parler un peu plus de ta mise en scène, de la scénographie qui est très travaillée.
Ouais.
T'as fait une conception sonore et visuelle avec le collectif Film Vivo.
Ouais.
Je veux parler un peu de cette collaboration.
Alors, eux, c'est des génies. écoute, c'est très étrange parce que je n'avais jamais vu leur travail sur scène. On m'en avait parlé et en fait, j'ai vu des vidéos. Et je sais pas, par rapport à ce que j'imaginais visuellement, ils ont une esthétique en fait qui est effectivement très millimétrée, très, très belle et en même temps qui s'adapte absolument à l'histoire qui est racontée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette chose de se mettre en avant, même si très facilement on reconnaît quand on connaît un peu leur spectacle que c'est une vivo, mais ils sont vraiment au service de l'histoire qu'ils racontent et avec une vraie réflexion et scénographique, dramaturgique et sonore, ils se posent vraiment des questions dramaturgiques avant de se poser des questions esthétiques, ce qui est très agréable parce que ça oblige du coup à se positionner et de jamais être dans la gratuité de ce qu'on, propose. Pour la scénographie, donc c'est un rideau de chêne uniquement, et après c'est des chaises. On n'est que dans la remémoration. Donc moi, j'avais pas du tout envie de symboliser. J'avais pas besoin de choses concrètes puisque rien n'est concret. On ne sait pas. On est à mon avis dans le cerveau de Cécile. Cette chose n'a jamais été résolue. En tout cas, on est dans un espace où on est dans une réalité refabriquée. On ne sait jamais quand on est au présent, quand on est au passé, quand on... Voilà, toute cette chose est très mouvante et je ne veux absolument pas la résoudre. Et c'est au spectateur de décider. Moi, j'ai mon secret, mon histoire, et je pense que chacun des comédiens sur scène a résolu cette chose-là. En tout cas, elle est personnelle et je ne veux pas trancher. Donc, il y a un rideau de chaîne parce que j'avais envie qu'on voit des fois pas trop. Donc c'est vraiment justifié par ça, et qu'il y avait au départ, mais parce qu'aussi la mise en scène a bougé, il y avait deux espaces, l'espace de Cécile et de Cyril, donc qui joue cette fameuse histoire du père et l'histoire de Lol, et finalement les deux histoires sont devenues extrêmement poreuses, donc du coup tout s'est mélangé et c'est bien mieux comme ça. Mais voilà, je voulais avoir la possibilité qu'on puisse ne pas trop voir à des moments et deviner, et le rideau de chaîne permet ça fait une sorte de flou qui est assez beau. Et sinon, donc, c'est des chaises qui sont toutes les mêmes et qui sont un train, une terrasse, un salon de thé, une chambre d'hôpital, un lit, des milliards de choses. Et ça, c'était absolument... Donc ça, c'est l'idée de Chloé Dumas, donc la scénographe d'In Vivo. Voilà, c'est-à-dire que ça raconte ce dont le spectacle parle. Ça veut dire qu'on revit des choses... qui ne sont pas autant présents, mais pourtant on y croit, et que quand on voit Cyril qui a l'âge de Cécile, qui joue le père de Cécile alors qu'ils ont le même âge, parce qu'il se remémore et qu'il rejoue des souvenirs, bah, d'un coup on a quand même l'impression que Cyril, même s'il a le même âge que Cécile, bah, c'est vraiment son papa et qu'il est vraiment malade. Donc voilà, de rester toujours dans cette chose-là. Quant à la lumière, on était sur des choses très travaillées. Moi, j'avais donné comme sur du rouge et du blanc, il y avait cette chose où j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose d'aqueux, de l'ordre de très aquatique. C'est instinctif, je peux pas le justifier dans l'histoire de LOL, quelque chose de cet ordre-là. Et au contraire, dans l'histoire de Cécile, on savait qu'on était dans un univers d'hôpital, puisqu'elle n'arrive pas à s'émanciper, qu'elle revient toujours à cette fameuse maladie de son papa. Et donc on a travaillé là-dessus, et effectivement, donc ça c'est Julien Dubuc et Maria Marinci. Et Samuel Serendour donc, a fait cette magnifique création sonore aussi. On est dans un truc qui n'est pas concret. Les comédiens jouent extrêmement de manière extrêmement concrète les situations, mais on est quand même quelque part un peu bizarre, où il y a des gens qui rejouent des souvenirs, des gens qui revivent des choses, qui regardent les autres faire l'amour, quoi. Tout ça est un peu étrange. Et du coup, il y a effectivement, le son est très présent. Parfois, il est inaudible pour le spectateur, mais il est comme ça en nappe de... vraiment en nappe assez loin. Mais du coup, ça amène quelque chose d'un peu... une atmosphère un peu d'apesanteur, j'ai l'impression. Voilà, en tout cas, c'était ce qui était recherché par eux.
Et il y a des projections aussi de...
De surtitres.
Ouais, surtitres, c'est une façon de garder un lien avec le texte.
C'est que j'avais envie d'un spectacle chapitré comme un livre.
Ok.
Alors, le truc, c'est qu'entre le moment où des décisions étaient prises et ce qui va être joué aujourd'hui à Belleville, le spectacle a beaucoup bougé. Donc les choses sont... Cécile a pris... Le personnage de Cécile a pris des choses en charge qu'elle ne prenait pas au départ. Alors, il y avait deux volontés. Il y avait cette volonté de ne pas avoir besoin de concrétiser des lieux, de figurer des lieux de manière concrète, et que le surtitre, pour ça, c'est formidable. On écrit, on est sur une terrasse, t'as deux chaises, t'es sur une terrasse, et cinq minutes après, tu dis que t'es dans un train, t'en as quatre, t'es dans un train. Ça simplifie les choses, et que du coup, c'est au... Et le spectateur fait un travail d'imagination, et c'est très agréable, je trouve. En tout cas, moi, j'aime ça en tant que spectatrice. Et voilà, il y avait ce côté un peu chapitré, un peu... c'est un spectacle qui est fait vraiment comme des instantanés. On a vraiment des moments de vie qui sont, voilà, qui sont coupés effectivement par ces surtitres. Il y a des surtitres pour chaque scène. Il y a des scènes longues, des scènes courtes. Mais en tout cas, voilà, c'est un spectacle qui est extrêmement séquencé. C'est quelque chose que j'aime. Voilà, c'est quelque chose, j'aime bien ces choses voilà, qui se coupent pour passer à autre chose, voilà, comme des flashs.
C'est un podcast qui a aussi pour viser de parler à des jeunes compagnies qui se lancent. Mm-hmm. Qu'est-ce que toi, t'aurais à dire à une très jeune compagnie qui se lance dans
D'y croire. Nous, la compagnie, elle a été... quand elle a été créée, on n'était rien, personne. Moi, encore moins. Tout le monde m'a dit, tu feras ce spectacle sans argent. C'est impossible que tu trouves de l'argent, t'as rien fait, pas grand-chose, etc. Franchement, j'ai travaillé. J'ai travaillé très dur. On a fait ce spectacle avec 40 000 euros. Tout le monde a été payé. Mais je crois que même quand j'y croyais pas, je faisais semblant d'y croire. Et surtout, je me suis rendu compte que le fait de se dire qu'on va y arriver, en fait, ça crée chez les partenaires, quoi, les personnes qui sont devenues nos partenaires, chez les gens qui nous ont aidés financièrement. Donc, les organismes, les subventions, l'aspect d'IDAM, la DRAC, etc. Je crois qu'il y a eu cette chose... je crois qu'on est parti gagnant. Et du coup, on aurait eu besoin de 50 000 euros de plus. Hein. Mais en tout cas, de faire un spectacle avec un peu plus de 40 000 euros quand même. Ouais, 48 000 euros pour 5 personnes au plateau, une grosse équipe technique et tout ça. A fait que c'était quand même confortable et ça crédibilisait notre travail. Alors, il n'y a pas que l'aspect financier, évidemment, mais il n'est pas moindre. Quoi, je veux dire, c'est pas une petite chose, ça veut dire que ce spectacle nécessitait vraiment une esthétique particulière qui nécessitait de l'argent et que moi, c'était capital de travailler avec InVivo, qui sont quand même des gens qui travaillent énormément, qui ont fait des gros efforts aussi pour de leur côté pour financier, pour travailler avec quoi qu'on était vraiment super, les comédiens aussi. Mais voilà, aussi le spectacle, j'avais une vision de quelque chose et pour moi il était inenvisageable, il y avait des choses sur lesquelles il était possible de renier, d'autres choses sur lesquelles ce n'était pas possible. Et je crois que le fait de ne pas lâcher sur des choses, de croire à son travail, fait qu'en face les gens se sont mis à y croire. Et après, en fait, on se rend finalement, tout a l'air très dur, mais moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'il y a main d'œuvre qui m'a fait confiance alors qu'il ne me connaissait pas, quoi, Diane Landau particulièrement, que je ne remercierai jamais assez, et qui m'a prise en résidence pour un an, ce qui a crédibilisé la personne que j'étais, qui a crédibilisé le projet, qui nous a donné quand même un espace de répétition constant, une aide technique, de l'argent aussi. Un lieu de représentation, tout un travail administratif et tout ça. Mais voilà, je me suis rendu compte que... Voilà, à partir du moment où le projet est bien dessiné et qu'on arrive à en parler à l'autre, si on y croit, j'ai quand même l'impression que les gens finissent par y croire. Mais il faut travailler, quoi. Il faut se battre. Il faut se battre, ça a été un long combat. Mais on a réussi, les perspectives pour nous, pour la suite, sont assez incroyables. Après, pas sur Rapture, mais sur un prochain projet, sont belles, quoi. En tout cas, on a la compagnie, pour l'instant... On a vraiment l'impression qu'on a des très beaux jours devant nous. On est en discussion sur des choses formidables. Et voilà. Et aussi, je crois qu'on était une équipe extrêmement investie. C'est d'ailleurs aussi extrêmement investie sur la volonté de faire un spectacle qui serait bien. Je ne dis pas que le spectacle est bien. En tout cas, je dis que, en tout cas, moi, mon équipe, ces comédiens fabuleux qui sont sur ce plateau et qui ont co-signé la mise en scène, je pense qu'on est en phase avec ce qu'on voulait faire. Mais voilà, mais ça a demandé beaucoup de travail et d'investissement.
Juste une dernière petite question. Pourquoi Rapture ?
Parce que j'adore les titres en anglais. Je pense que si Jean-Pierre Thibaudat est venu voir le spectacle, il déteste les titres en anglais. Mais bon, moi je trouvais ça quand même chouette. Et Rapture, ça veut dire ravissement. Il y a rapt, ravissement, je peux faire un truc vachement intelligent. Ouais, c'est très intelligent. En fait, il y a deux versions. Il y a une version où je trouvais beau le mot. Je trouvais que ça sonnait et au niveau des images, que ça me... voilà, je trouvais ça beau. Il se trouve que ça veut dire ravissement, ce qui est quand même pas mal quand on monte à moitié le ravissement de Lewestein. Qu'il y avait le mot rapt de voler, etc. Et que je trouve que c'est extrêmement présent dans les deux histoires. Au départ, je m'étais posé la question de l'appeler juste simplement ravissement, mais en français, c'est un mot qui est extrêmement complexe. Et moi, comme j'entends ravissement, il peut être entendu de différentes manières. Et pour moi, il n'y a pas la violence, en fait, que tu peux avoir dans le mot rapture, tu vois, où il y a quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de l'extase que veut dire le mot ravissement. Bref, voilà.
Tu peux nous rappeler quand est-ce que joue Rapture ?
Ouais, non, oui, le 26. Je crois que c'est ça. Le 26, 27, le 26 à 19h, le mardi, les lundis et mardis, le mardi à 21h15, et après le 5, 6 mars à 21h15, et le 12, 13 à 21h15, je crois. Voilà.
Où ça ?
Au théâtre de Belleville.
Super, merci beaucoup Louis.
Oui, je t'en prie.